Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. De plus en plus d'individus savent à quel point les pollinisateurs, les arbres ou encore les océans sont primordiaux pour la survie des êtres vivants. Mais le rôle du sol, lui, reste souvent pas ou peu connu. Pourtant, c'est ce sol qui nous nourrit, nous habille, nous fournit de quoi construire nos maisons et nous supporte, nous, nos villes et nos campagnes. C'est pour cela que nous avons décidé de nous atteler à un épisode sur le sol, cette partie superficielle de la croûte terrestre sans qui la vie ne serait pas possible. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime que plus de 60% des sols du monde sont déjà dégradés par les activités humaines telles que l'érosion, la déforestation, la pollution ou encore la surexploitation. D'ailleurs, la dégradation des sols européens coûte en moyenne plus de 50 milliards d'euros par an en raison de la perte des services essentiels que les sols fournissent, selon la Commission européenne. Si ces sols continuent de se dégrader, il deviendra difficile de les cultiver car il faut un millénaire pour générer un nouveau sol fertile. On vous retrouve pour cette deuxième partie d'épisode sur le sol et son importance dans le maintien de la vie sur Terre. Dans la première partie d'épisode, nous avons vu que le sol est un compartiment riche en biodiversité qui joue des rôles clés dans la régulation climatique et également le cycle de l'eau. Maintenant, dans cette deuxième partie d'épisode, nous allons nous intéresser aux initiatives mises en place par les chercheurs, les décideurs politiques et la société civile pour préserver ces sols. Pour cela, nous retrouvons Marc-André Sellos, microbiologiste et spécialiste des sols, professeur au Musée national d'histoire naturelle à Paris et membre de l'Académie d'agriculture de France. Rebonjour Marc-André.
Rebonjour.
Mathieu Bravin, agronome, biogéochimiste, spécialiste de la contamination des sols agricoles et chercheur au sein de l'unité recyclage et risque du CIRAD. Rebonjour Mathieu.
Rebonjour à tous les trois.
Et Arnaud Daguin, ancien chef étoilé, expert en stratégie alimentaire et cofondateur de l'Association pour une agriculture du vivant. Rebonjour Arnaud.
Bonjour Colombe, bonjour tout le monde.
Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que les contaminants présents dans le sol circulaient et pouvaient se retrouver dans l'eau, dans l'air et également chez les êtres vivants. Mathieu Bravin, au sein de l'unité recyclage et risque du CIRAD, vous avez développé le RISO-test qui permet d'évaluer le risque de transfert des contaminants du sol vers les plantes cultivées. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors pour en dire plus, il faut revenir sur l'état de santé des sols, par exemple, fait par à l'échelle de l'Union européenne continentale, qui indiquait que plus de la moitié des sols européens seraient dégradés, alors pas que par des problèmes de contamination. Il faut savoir que ce chiffre-là, il ne fait pas aujourd'hui l'objet d'un consensus parfait au sein de la communauté scientifique. Par contre, il n'y a pas de doute qu'il souligne l'importance d'être en mesure d'évaluer cet état de santé des sols et les différents critères de santé des sols. L'Union européenne en a par exemple défini une quinzaine, dont certains qui sont directement reliés à la problématique de contamination des sols. Et en fait, il y en a trois qui sont le niveau de contamination des sols en cuivre, par exemple qui est apporté par les traitements avec la bouillie bordelaise, en maraîchage ou en viticulture, par le zinc, qui est plutôt issu des eaux de lixiviation de nos toitures ou d'industries qui émettent ça dans l'atmosphère, ou encore du mercure. Les critères en fait, pour faire l'état des lieux des problématiques de contamination sont donc réduits à uniquement trois contaminants, qui est évidemment très très limité, puisque en fait, on a plutôt plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de contaminants qui sont potentiellement ennemis dans l'environnement et qui, du coup, le sol étant un super réceptacle des différents éléments et substances émises dans l'environnement, qui sont susceptibles de contaminer les sols. La deuxième problématique par rapport à cet état des lieux, son insuffisance par rapport à la contamination des sols, c'est qu'en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le niveau de contamination au final, c'est plutôt le risque de transfert vers le vivant et les effets toxiques sur le vivant et in fine, bien sûr, sur l'être humain. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a développé cet outil RISO-test qui permet de mesurer au laboratoire, dans des conditions standardisées, donc c'est-à-dire pas parfaitement représentative, mais suffisamment représentative des conditions de terrain, le transfert du sol à la plante des contaminants et le risque, du coup, à la fois d'effets toxiques sur la plante et donc d'altération de la capacité productive du sol vis-à-vis de l'agriculture, mais également du risque de contamination des denrées alimentaires d'un point de vue de la toxicité humaine.
Donc les contaminants sont l'un des nombreux défis auxquels font face les sols. Nous allons donc maintenant nous pencher sur les leviers de restauration de ces sols. Jachère, matière organique, réduction des labours, on en a déjà mentionné certains dans la partie 1. Marc-André Sellos, pouvez-vous nous parler des techniques de régénération du sol et notamment du 4 pour 1000 ?
Alors, le 4 pour 1000 n'est pas forcément une régénération du sol, il a aussi des fonctions climatiques, mais c'est vrai qu'il passe par une régénération des fonctions du sol. Alors, l'une des fonctions du sol qu'on avait évoquée, hein, d'ailleurs dans la partie précédente, c'est de contribuer au climat. Mais on a surtout évoqué la façon dont l'émission de gaz à effet de serre pouvait dégrader le climat. Une autre façon d'envisager le sol, c'est de se dire qu'on va y stocker de la matière organique qui sera lentement dégradée, mais lentement seulement, et tout son carbone sera sous forme de matière organique pour 10, 50, 100, 1000 ans parfois, enfin 10 000 ans même dans certains sols d'Ukraine et du sud de la Russie. Donc l'initiative 4 pour 1000, elle vise à remettre de la matière organique dans les sols. Je dis remettre parce que souvent le labour a conduit à sa destruction, mais on peut aussi en mettre. D'une matière organique qui va donc se dégrader lentement et faire stock de carbone. Le nombre de ces initiatives vient d'un calcul tout bête. Si chaque année on augmente de 0,4% la teneur en matière organique de tous les sols, eh bien, on va arriver à compenser les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité de cette année-là. Alors, ce n'est pas pour continuer à émettre des gaz à effet de serre, c'est pour résoudre ce qu'on a émis déjà et qui, pour l'instant, est en train de nous préparer le climat qu'on aura dans 10 ans. D'autre part, il y a des sols qui ne s'y prêtent pas, des sols sableux, il y a beaucoup d'oxygène qui rentre dedans et la matière organique ne reste pas. Ensuite, on n'aura sans doute pas assez de matière organique pour en mettre dans tous les sols du monde, 0,4% par an. Mais partout où on le peut, c'est un des leviers pour agir sur le climat et ce calcul de 4 pour 1000, il montre la pertinence quantitative de cet outil. Il montre que c'est un outil qui a un ordre de grandeur intéressant. Cette matière organique, la question, c'est comment est-ce qu'on l'amène ? Il y a deux façons de l'amener. On peut l'amener effectivement de l'extérieur. C'est d'amener des déchets animaux. Et là, le fumier montre bien une fonction positive sur le climat du bétail, même si par ailleurs le bétail fait du méthane. Il peut y avoir une compensation là. Et puis aussi tout notre fumier à nous, nos ordures ménagères par exemple, qui devraient, avec un très léger compostage ou pas de compostage, retourner dans les sols. Ça, c'est la quantité qu'on peut apporter de l'extérieur, mais on peut aussi utiliser nos sols en hiver. On est habitué à avoir des sols nus en hiver, c'est complètement aberrant par rapport à l'érosion, et on peut très bien y faire grandir des plantes qu'on détruira avant les récoltes suivantes et dont la matière organique viendra s'ajouter au sol. Ces cultures dites intermédiaires, hein, qui permettent donc de créer de la matière organique qui ensuite et soit dans le sol pour les racines, soit enfoui par le travail des vers de terre pour ce qu'on aura rasé ou abattu au sol ou broyé, eh bien, cette matière organique, elle peut représenter un stockage de 0,1 à 1 tonne de carbone par hectare et par an.
Et justement, ça tombe bien, on va parler de la récupération de nos déchets. Et là, on va s'intéresser aux déchets alimentaires en provenance des cuisines et des eaux usées. Arnaud Daguin, vous avez beaucoup été en cuisine car vous êtes un ancien chef étoilé. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de récupérer les eaux usées, les déchets alimentaires des cuisines pour les épandre dans les champs ?
Bah, c'est un vieux truc. Et oui, tout est possible. Hein. Je suis assez vieux pour avoir connu une époque où... En fait, le mot déchet n'existait quasiment pas en termes de cuisine, en tout cas, et où tout était utilisable d'une façon ou d'une autre, et y compris en fin de cycle, souvent pour nourrir des cochons, par exemple. Ce n'était pas pensable de considérer ce qu'on appelle aujourd'hui un déchet en cuisine à cette époque-là. Ce que je voudrais dire là, c'est plutôt et surtout, parce que bon, les eaux usées, c'est une autre problématique, et surtout avec les produits d'aujourd'hui, qu'on utilise pour l'aspect sanitaire, et donc c'est plus compliqué à traiter, je ne suis pas compétent pour parler de ça. En revanche, ce que je peux dire, c'est que la restauration en tant que telle, et en tant que prescripteur d'habitude et de produits, et un peu de culture, cette restauration peut, en s'adressant à des producteurs, à des paysans, à des producteurs qui utilisent les pratiques dont vient de parler Marc-André, la restauration peut aider à faire monter ces sujets sur la table et à les faire s'accélérer. Et là encore, c'est toujours un des buts recherchés par cette association donc pour une agriculture du vivant. On a sorti un outil qui s'appelle l'indice de régénération. Un indice qui permet d'abord, évidemment, aux agriculteurs, mais ensuite à tous ceux qui s'adressent à eux en aval, de comprendre en quoi les pratiques de cet agriculteur vont régénérer son milieu ou, au contraire, ne pas le faire. Et je pense que c'est en étant un petit peu aux aguets de ce genre de choses dans la restauration et ailleurs, dans l'industrie agroalimentaire, qu'on pourra, j'espère en tout cas, généraliser le plus possible ces pratiques qui sont des pratiques de régénération des sols. On a passé des, on va pas dire des siècles, mais si presque maintenant, des décennies en tout cas, à dégénérer les milieux. Il est temps qu'on s'applique à les régénérer et surtout que cette régénération soit visible et quantifiable et qu'elle serve aussi à rétribuer les agriculteurs. C'est pour ça que quand Marc-André parle d'interculture, de cultures supplémentaires qui ne sont pas récoltées ni vendues, en fait, elles ont une valeur au regard de notre avenir commun. Et cette valeur, il n'y a aucune raison de ne pas mettre un prix en face. Et ça faciliterait beaucoup, et on est en train de travailler là-dessus, un très gros projet qui s'appelle Covalo, donc vous pourrez peut-être regarder les détails, je ne vais pas y rentrer là-dedans maintenant, comment on fabrique du modèle économique à partir de la capacité à régénérer les milieux productifs. Et ça, c'est une des clés, et ça dépasse largement la restauration et l'utilisation des eaux de la plonge. On est là sur un point clé, qui est un point à la fois sociologique et économique de notre alimentation. Comment on va pouvoir décorréler de l'actif d'une exploitation agricole tout ce qui concerne la régénération des milieux et qui va profiter aux générations d'après, et comment on peut faire en sorte que ça contribue à la rémunération du paysan.
Merci beaucoup Arnaud. Alors le 4 pour 1000, la matière organique ou les pratiques d'agroécologie, toutes ces initiatives ne peuvent pas être mises en place sans des réglementations et des politiques publiques. Au niveau national, ces derniers temps, la France continentale a fait face à de nombreux mouvements agricoles. Suite à cela, une version définitive du plan éco-phyto de réduction des pesticides devrait être présentée début avril. Le gouvernement entend abandonner l'indicateur actuel pour mesurer la diminution de l'utilisation des pesticides, qui s'appelle le NODU. Les associations environnementales défendent cet indicateur, mais l'industrie des pesticides et le syndicat agricole FNSEA le contestent. À la place, le gouvernement prévoit d'utiliser l'indicateur européen HRI1. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quels enjeux pour la santé du sol et du vivant, Mathieu Bravin?
Alors, la première des choses, c'est que je ne travaille pas spécifiquement sur les pesticides et encore moins sur les indicateurs qui sont utilisés. Cependant, donc, les éléments de réponse que je peux apporter ici sont donc issus plutôt de lectures que j'ai eues, et je vais conseiller un article qui me semble faire vraiment référence, un article récent de vulgarisation qui a été publié le 21 février 2024 sur le média en ligne gratuit qui s'appelle The Conversation et qui a surtout été publié par une quinzaine d'auteurs qui sont des membres du conseil scientifique et technique du plan Ecophyto, qui sont des scientifiques d'instituts techniques, d'instituts de recherche français, qui travaillent depuis souvent 10 ou 20 ans sur ces questions-là, si ce n'est plus, et qui sont indépendants dans la prise de position qu'ils prennent sur cette question-là. Voilà, donc ils ne servent ni les intérêts des associations environnementales, ni ceux du gouvernement, ni ceux des syndicats agricoles. Donc clairement, dans cet article-là, je vous engage à aller le regarder. Déjà, il définit ce que sont les indicateurs, leur intérêt et ce qu'est le NODU, c'est-à-dire le nombre de doses unités d'application des pesticides. La deuxième chose, c'est qu'ils expliquent très clairement en fait, que cet indicateur-là a été mis en place depuis longtemps à partir de travaux scientifiques faits par l'INRAE. Quand je dis depuis longtemps, c'est depuis 2008. Donc ça fait plus de 15 ans que ça a été mis en place et que l'intérêt en a été validé. D'autre part, ça a permis de montrer, contrairement à ce qui est parfois dit un peu rapidement, qu'il y a eu des efforts faits. C'est-à-dire que le plan Ecophyto a permis de faire des choses, tout n'est pas parfait, mais par exemple, on a drastiquement diminué l'utilisation des pesticides les plus problématiques vis-à-vis de la santé de l'environnement et de la santé humaine. C'est les pesticides, notamment les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, qui ont été drastiquement diminués, notamment les plus toxiques parmi eux. Le dernier point qui est fortement souligné par ces scientifiques-là, c'est qu'en fait, cet indicateur, pour eux, ça serait vraiment dommage de le supprimer, Une des raisons principales, c'est qu'il n'est aujourd'hui pas directement harmonisable avec les indicateurs européens, comme par exemple le HRI1 que vous avez cité, mais ils indiquent clairement qu'il y a déjà eu des travaux scientifiques qui permettraient à moindre coût de l'harmoniser à l'échelle européenne et de pouvoir continuer à l'utiliser, qui serait même certainement plus performant que le HRI1. Je ne fais que retransmettre l'avis de ce comité scientifique, mais qui, lui, semble clairement en faveur de ne surtout pas abandonner le NOLU.
Outre l'impact de l'agriculture sur les sols, il y a aussi l'enjeu de l'urbanisation qui joue sur la santé des sols et notamment ce que l'on qualifie d'artificialisation des sols, qui selon l'INSEE est la transformation d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d'aménagement pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. La France vise à atteindre zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Votre avis sur la question, Arnaud Daguin ?
Ce que je pense, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ceci est une bonne intention. Il y a dans cette propension jacobine en France à vouloir réglementer d'en haut, sans vraiment regarder le détail de la mosaïque des cas particuliers d'en bas, quelque chose d'assez oppressant et de contre-productif relativement souvent. Donc moi, j'habite dans un village de 600 habitants ici, qui s'appelle Castelnau-Barbarens, dans le Gers. Et aujourd'hui, si vous discutez avec le maire de la pertinence du zéro artificialisation net et de ses conséquences sur sa commune, ben ça ne marche pas du tout et que ça ne rend absolument pas service à la population, ni maintenant, ni plus tard. Ceci dit, il faut évidemment comprendre que si on en est à cette volonté-là, c'est qu'on a compris que notre façon d'utiliser les sols était complètement débile. Quoi. Et ça, c'est vrai. Il suffit de se promener dans les petites villes ou dans les villes moyennes ou même dans les métropoles pour voir que toutes les zones artisanales ou d'activité qui sont bétonnées et goudronnées à satiété sont en général placées sur des sols relativement plats, c'est-à-dire en fait les meilleurs pour cultiver, donc au bord des rivières, des sols limoneux, des sols fertiles. On voit bien qu'on a été complètement crétins sur des dizaines d'années pour cette utilisation des sols et que donc aujourd'hui, il faudrait réfléchir un peu plus intelligemment. Bon, ça c'est moi qui parle, c'est pas l'association pour une agriculture du vivant, c'est moi Arnaud Daguin, vieil anarchiste de base. Si on commence à compter sur l'interdiction et sur l'obligation pour obtenir des résultats, on voit où ça nous mène, mais ça nous mène exactement là où on est aujourd'hui, puisqu'on ne fait que ça depuis au moins Louis XIV, même peut-être Henri IV. Donc ce n'est pas par la coercition qu'on arrivera, à mon sens, à occuper une place cohérente dans le vivant, nous, humanité, c'est plutôt par une conscience et une compréhension. Alors, je sais que ça paraît un peu angélique de parler comme ça, et qu'il faut toujours avoir le bâton pour amener les oies, mais je n'en reste pas moins persuadé que ce n'est pas avec des réglementations dures et des lois de ce type qu'on arrivera à des résultats satisfaisants. Voilà, ça, c'est mon avis personnel.
Plutôt une transition qui passerait par le bas et par les citoyens, leur prise de conscience, leur volonté à bien faire. Mais on va quand même continuer sur les politiques publiques parce qu'on vit dans un monde où on est quand même régi par de nombreuses politiques publiques. Donc maintenant, au niveau européen, la Commission européenne a proposé une directive sur la surveillance des sols le 5 juillet 2023. Cette directive vise à permettre à l'Union européenne de parvenir à un bon état des sols d'ici à 2050. En comparaison, des directives cadres européennes sur l'air et l'eau existent déjà depuis une vingtaine d'années. On peut se demander si cela sera suffisant pour éviter des scandales sanitaires comme celui du chlordécone aux Antilles. Donc, je le rappelle, le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé massivement dans la plantation des bananes en Martinique et en Guadeloupe, ayant entraîné une grande contamination des sols et de l'eau et des conséquences significatives sur la santé des populations locales, notamment avec une augmentation drastique du nombre de cancers de la prostate. Marc-André Sellos, vous êtes microbiologiste spécialiste des sols. Que pensez-vous de tout cela ? Est-ce que, selon vous, une directive européenne sur la surveillance des sols pourrait vraiment changer la donne ?
L'Europe n'en est pas à son coup d'essai. Hein, avec Caring for Soil is Caring for Life, elle visait 75% de sols en bonne santé en 2030. Et Mathieu indiquait que les chiffres sont discutés, mais on est plutôt en ce moment sur 60% des sols pas en bonne santé en Europe. Donc, il y a eu toujours un souci en Europe. Je pense qu'effectivement, il y a besoin de réglementation et au risque de froisser Arnaud, je dirais qu'il y a besoin des fois qu'il y ait des avertisseurs qui fonctionnent aussi par une voie centralisée, parce que autant j'ai vu des agriculteurs s'emparer du bio, j'ai vu des agriculteurs s'emparer de l'agriculture non labourée, c'est respectivement 10 et 4% de notre surface agricole utile, autant je n'ai pas vu d'élus s'emparer de diminuer l'artificialisation, jamais. Parce qu'en fait, tout le monde se dit, ben, c'est aux autres de le faire. Et ça, c'est un vrai problème. On a besoin de politiques volontaires collectives. Ça n'empêche pas que l'atterrissage local est difficile, hein, des fois. Mais on a vraiment besoin de ça. Or, aujourd'hui, si on examine ce qui se passe en Europe, on a un délitement de la volonté, on le voit très bien au niveau des réserves naturelles, hein, et des textes de loi qui ont été repoussés finalement aux calendes grecques sur les réserves naturelles ou le paquet REACH qui devait réexaminer les produits toxiques et les listes de produits qu'on pouvait commercialiser et utiliser, qui a été aussi reporté aux calendes grecques. On a vraiment une Europe qui baisse les bras, d'ailleurs souvent pour des raisons de populisme, c'est-à-dire ou bassement électoraliste. Quand je dis bassement, c'est qu'en gros, on sacrifie le long terme au court terme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les projets de loi sur les sols sont en discussion entre le Parlement et la Commission, qui ont des exigences assez élevées, et des gouvernements qui sont en train de dézinguer le projet initial. En d'autres termes, les projets de réglementation européenne sur les sols se heurtent à un problème de courage politique actuellement, et ce courage politique, je reprends ça, n'est pas du tout corrigé au niveau national, où en général, les législations et les envies sont bien moins exigeantes. Donc moi, je suis très inquiet de voir que, bien que l'Europe se soit toujours occupée des sols, elle le fait avec une ambition qui décroît et qui n'est absolument pas compensée par les pays membres. En d'autres termes, moi je vais vous dire mon modèle dans ce qui va se passer. On va continuer à artificialiser, on va continuer à mettre les pesticides dans les sols parce que notre but, c'est de nourrir le monde, et on le nourrit au prix d'une pollution éternelle dans nos sols. Le lin d'âne a été interdit en 1998, et la moitié des Français en contiennent encore dans leur sang. Bon, on va avoir une espèce de vaste friche industrielle qui aura nourri le monde, et puis alors après, nos descendants, ils géreront les toxines. Le climat va changer. Oh, on va s'apercevoir qu'on n'a plus de sol. Chaque année en France, il disparaît une surface qui nourrit la ville du Havre. C'est de la bouffe qu'on en tire de la bouche de nos enfants. Dans un contexte de changement climatique, où on le voit très bien avec les sécheresses estivales qu'on essuie en ce moment, la production alimentaire va dégringoler. Moi, je dis, si on ne se reprend pas rapidement, nous promettons l'enfer à nos enfants. Alors, on peut s'arrêter là et se dire, oui, bon, d'accord, mais ils n'auront qu'à se démerder. C'est d'ailleurs ce que dit la loi zéro artificialisation nette. Hein. Zéro artificialisation nette, le but, c'est en 2050. En gros, c'est un truc que vont faire nos enfants et que nous, on ne sait pas faire. Bravo, les parents. Bravo. Donc, à un moment, je pense que... Bon, moi, je ne fais pas partie des scientifiques qui font rébellion, parce que moi, je raconte la science, mais je suis désolé, les amis, ce que je vois, ce n'est pas l'avenir. Ce n'est pas d'avenir. Et donc, là, il va falloir se reprendre, et en particulier, il y a des élections européennes qui traînent dans l'air, il faut aller voter pour ceux qui représenteront les intérêts de nos enfants. Il y a vraiment des gestes politiques forts à faire, et ce qui m'inquiète un peu, je suis ravi de participer à ce podcast, mais c'est que la diffusion de l'information et de la réflexion scientifique n'aide pas beaucoup à ça. Et j'en reviens à ma marotte. Mon seul espoir à moi, c'est qu'on forme des enfants qui soient plus capables de comprendre ce que sont les impératifs du futur. Parce que pour l'instant, c'est plutôt en train de se déliter, et une fois de plus, cette espèce de facteur correcteur qu'était l'Europe est en train de tomber en miettes. C'est vraiment inquiétant, hein, parce que jusqu'ici, clairement, les impétus pour le respect de l'environnement et notamment des sols sont plutôt venus de l'Europe.
Merci Marc-André pour ce gros résumé de la situation dans laquelle on est actuellement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup été pointé dans la première partie de l'épisode, c'est le besoin de temps long pour ces sols, pour se construire, pour se régénérer, et le paradoxe du temps très court de nos politiques publiques, qui évidemment font assez défaut et posent pas mal de problèmes, et en parallèle, le manque de sensibilisation, et notamment des générations futures. On espère que cela va évoluer, notamment dans les écoles, dans les années à venir, parce que c'est sûr que si on reste dans le modèle actuel, les prévisions scientifiques ne sont pas très glorieuses pour nous. Maintenant, après s'être intéressé à l'échelle nationale et européenne, on va s'intéresser à l'échelle mondiale. Mathieu Bravin, dans une interview du CIRAL, vous avez expliqué qu'à l'échelle mondiale, il existait 350 000 substances susceptibles d'être émises dans l'environnement et de devenir des contaminants. Sur ces 350 000 substances, seuls 6% auraient fait l'objet d'études scientifiques ces 50 dernières années. Mais alors, quels sont les freins à plus de suivi sur la santé des sols?
Bon, la première chose, c'est de dire que ces chiffres-là alimentent ce que dit Marc-André sur le fait que les faits scientifiques ont plutôt tendance à étoffer un nécessaire cri d'alerte par rapport à un certain nombre de menaces qui pèsent sur l'environnement et notamment sur les sols. Donc le chiffre que vous avez dit, oui, en gros, on oscille entre 250 000 et 350 000 substances inventoriées, substances chimiques inventoriées, qui sont produites, utilisées dans le monde et donc potentiellement émises in fine dans l'environnement. Et effectivement, une étude bibliographique a suggéré qu'il y en avait environ seulement 20 000 qui auraient fait l'objet d'études scientifiques. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaitement connues, mais au moins il y a eu quelques études scientifiques sur 20 000 d'entre elles, donc seulement 5 à 10% on va dire. Les freins à ça, à mon avis, il y en a trois principaux. Le premier, qui fait écho à ce qu'on est en train de discuter, c'est le frein réglementaire. C'est les auteurs qui soulignent ça. Ils le disent, hein, pour qu'il y ait des inventaires qui puissent être faits, c'est-à-dire qu'il y ait remontée d'informations sur les substances chimiques qui sont produites, utilisées un peu partout dans le monde, il faut des réglementations qui contraignent, notamment les industriels, à faire remonter ces informations-là. Et ça, clairement, ça manque. Donc ça, c'est un premier frein, c'est des réglementations qui, partout dans le monde, permettent de faire ça. Le deuxième frein, c'est un frein financier où les mêmes auteurs disent clairement qu'il faudrait probablement déporter une part non négligeable des investissements qu'on fait aujourd'hui pour inventer, produire de nouvelles substances chimiques vers le financement d'études pour étudier les conséquences sanitaires, environnementales de l'émission dans l'environnement de ces substances, de celles qui sont déjà existantes. Voilà. Clairement, du coup, ces moyens-là, ça serait des moyens supplémentaires pour la recherche, évidemment pour une recherche indépendante, d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux qui sont aujourd'hui pas en mesure de le faire de manière suffisamment exhaustive. Le troisième et dernier frein, il est plutôt lui lié, je pense que là, c'est la communauté scientifique qui doit un peu s'interroger sur son fonctionnement et chercher à l'améliorer, c'est le fait que ces thématiques-là, je pense que c'est au cœur du concept de santé unique, One Health, c'est la nécessaire interdisciplinarité. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, cette notion de santé unique, elle a quand même aujourd'hui été quand même beaucoup trustée par les sciences médicales, enfin reliées au domaine médical, et que les sciences de l'environnement sont quand même restées encore un parent pauvre. Et je dis les sciences de l'environnement, mais en fait, j'inclus aussi à travers ça les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire le regard en termes sociologiques qu'on peut jeter sur cette problématique de santé unique. Et clairement, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une interdisciplinarité, voire d'une transdisciplinarité très forte entre les différentes disciplines scientifiques. Et ça, c'est largement perfectible. Et ça demande évidemment que les moyens humains, que les moyens financiers soient mieux, soient plus également répartis entre les différentes disciplines, et notamment que les sciences de l'environnement, c'est-à-dire que les disciplines scientifiques qui étudient la santé de l'environnement, et notamment celle des sols, aient plus de moyens pour pouvoir améliorer leur capacité d'évaluation des problématiques sanitaires et environnementales. Évidemment, de dire ça, c'est pas juste parce que moi, je fais partie des gens qui travaillent dans les sciences environnementales, et donc je dis pas ça juste pour avoir plus de moyens, c'est parce que, in fine, les sorties des sciences environnementales en termes de santé de l'environnement, de santé humaine, c'est évidemment directement relié à la santé humaine et donc derrière aux disciplines médicales.
Donc, si je résume un petit peu tout ce qui s'est dit, c'est une besoin de sensibilisation et de prise de conscience de la part des citoyens, d'une première part, des besoins de réglementation politique efficace, de moyens financiers pour la recherche, et de recherche pluridisciplinaire, parce que oui, on est dans un podcast One Health, où on prône l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale, et on l'a compris, le sol, la santé des sols, elle joue sur la santé de l'air, de l'eau, et la santé du vivant, dont la nôtre, donc il faut qu'on puisse travailler entre spécialistes des différentes santé pour pouvoir avoir une approche globale et comprendre ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais faire un petit rétrospectif dans le passé. Donc, pour ça, je vais vous faire écouter un extrait d'une archive de 1951 sur la fertilité de la Terre.
La vie sur la Terre nous est venue du sol. Des millions d'années passaient. Il y eut de petits animaux comme ce lézard. Quand il mourait, Leur corps, ainsi que les feuilles et les tiges des premières plantes, devenaient partie intégrante du sol qu'ils rendirent plus tendre et plus riche. Il fallut cependant d'autres millions d'années avant que des animaux et des plantes toujours plus grands poussent, meurent et tombent sur le sol afin de produire notre tendre et riche terre meuble actuelle. Quand nous l'examinons d'assez près, à l'aide du microscope, nous pouvons voir les minéraux et les produits chimiques et les bactéries qui s'y trouvent, ainsi que les êtres minuscules qui la font vivre, car ils n'aiment pas les couches inférieures. Il y a aussi d'autres êtres vivants dans la terre meuble, par exemple des fourmis ou d'autres insectes. Des vers de terre qui maintiennent le sol meuble et réceptif à la pluie. Tous ces derniers, aussi bien que les animaux plus grands comme ce rat musqué, contribuent, même en mourant, à améliorer notre sol. Nous devons donc prendre grand soin de cette terre qui nous soigne si bien. Elle le fait en transformant ses produits chimiques et minéraux en ces magnifiques blés d'or qui nous donnent notre pain de tous les jours, nos biscuits, nos gâteaux, nos gaufres. Il nous donne encore les fibres de coton desquelles nous fabriquons nos vêtements, ainsi que les vitamines pour notre santé, et la viande, et le cuir, et toutes les choses qui nous sont indispensables chaque jour de notre vie.
C'est tendre comme film. La tendreté du sol.
Donc c'était il y a 73 ans, et nous avions déjà compris que la Terre hébergeait la vie et devait être protégée. Quelles sont vos réactions face à cette archive, par exemple Mathieu Bravant?
Alors, je ne connaissais pas cette archive, elle pose les éléments de base dont on a déjà parlé. Je ne suis pas surpris sur le fait que ça mette en évidence le rôle de la vie dans les sols, sur les fonctions des sols qui nous sont essentielles pour le développement des sociétés humaines. Oui, ce qui est assez marrant, c'est à un an près, là, en 1952, il se trouve qu'il y a un chercheur américain, Salman Waksman, qui a eu un prix Nobel de médecine pour la découverte d'un antibiotique, en l'occurrence la streptomycine, qui est évidemment fait partie des révolutions de la médecine du XXe siècle. Et en fait, il faut savoir que Salman Waksman, c'était avant tout et au départ un microbiologiste du sol. Et donc, en fait, que ces grandes découvertes de la médecine, parce que la production d'antibiotiques n'est pas quelque chose qu'a inventé l'être humain, c'est quelque chose qui se passe tous les jours au sein des sols. Déjà à cette époque, c'est-à-dire dans la première moitié du XXe siècle, la microbiologie du sol était déjà une thématique importante et on utilisait déjà les connaissances, notamment sur la microbiologie du sol, pour le bien-être du développement des sociétés humaines.
D'accord. Est-ce que Marc-André ou Arnaud, vous voulez réagir à cette archive?
Moi, je peux dire un mot. Il y a quand même un moment vers la fin où on nous dit que tous les produits qu'on met dedans se transforment en blé blond. Bon, il y a quand même il y a une prise de conscience que c'est vivant, qu'il faut le respecter, mais enfin, ça reste très théorique. Je dirais que pour moi, il y a quand même une date clé, un premier rendez-vous raté, puisqu'on parlait de rendez-vous raté, Mathieu reprenait la même veine avec la science, c'est quand une biologiste marine, quelqu'un qui fait de la biologie marine, abandonne son travail et se met à écrire parce qu'elle réalise quelque chose qui ne va pas dans les écosystèmes terrestres. Elle s'appelle Rachel Carson et elle écrit « Le printemps silencieux ». Et quand vous relisez Le printemps silencieux de 1962, vous avez une critique déjà très très exacte, avec des tendances, des craintes qui se sont avérées vraies ensuite. C'est pas nouveau, mais il y a souvent eu, et là les scientifiques sont responsables, une approche de la biodiversité un peu oh, « c'est un trésor esthétique, c'est beau, on fait des beaux films sur les animaux, des beaux films sur les plantes ». Oui, alors les plus vieux d'entre nous se souviennent des reportages à la Christian Zuber. Hein. Bon, il y a effectivement eu une incapacité à faire une vulgarisation ancrée dans le réel. On fait souvent une vulgarisation scientifique qui est basée sur des découvertes récentes. On oublie complètement que les gens sont à la traîne parce qu'il y a tout un tas de trucs acquis anciennement qu'ils ne manipulent pas et dont ils ne savent pas dans le quotidien faire de la santé ou des choix politiques. n'est que récemment que les scientifiques se sont aperçus qu'ils avaient quelque chose à dire sur la vie des gens, sur la vie citoyenne, sur la vie démocratique. Les scientifiques ont donc parfois eu du mal à comprendre que la vulgarisation qu'ils devaient faire, ce n'était pas celle des dernières nouvelles de la science, mais réellement celle qui est une explication du monde et qui permet des choix citoyens, des choix pour la santé. Et dans ce film, ben, la nature est belle. Et il faut la respecter parce qu'elle nous nourrit. Mais comment on la respecte? Comment on fait concrètement? Quels sont les problèmes? Quelles sont les actions citoyennes? Et puis au fait, pourquoi le fait que ce sol soit en bonne santé, ça nous concerne? Tout ça, on le sait déjà un petit peu, mais ça ne transparaît pas. C'est vraiment raté, ce genre de film. C'est raté. C'est ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est de l'explication qui est empathique avec celui qui écoute, c'est-à-dire qui rentre dans sa vie et lui permet éventuellement de choisir de faire autre chose. Et c'est important parce que dans le discours où on dit que la société n'écoute pas la science, il faut aussi interroger sur la façon dont la science parle à la société.
Complètement. Éviter d'avoir des approches en silo et vraiment faire en sorte que les chercheurs et les citoyens communiquent plus et comprennent plus les citoyens, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que, Arnaud, vous avez envie de rajouter quelque chose sur l'archive ?
Un petit bout de quelque chose encore plus vieux que ce qu'on vient de voir et à mon sens peut-être plus accessible pour les gens si jamais ils le lisent. Il s'agit des écrits d'un Obero Gascon qui a vécu entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, donc un propriétaire terrien du côté de Nogaro, à Manciette, dans le Gers, qui écrivait dans la revue des Deux Mondes. On a fait de quelques-uns de ses articles un livre qui s'appelle « Le livre de raison ». Et dans ce livre, à un moment donné, il discute avec un de ses métayers, ils sont à cheval, et il parle des rendements passés des productions de leurs grands-parents et de leurs parents, et du fait qu'ils n'arrivent plus à obtenir ces rendements-là, notamment sur des céréales. Et il se pose la question, on est en 1923, je crois, de mémoire, et il se pose la question de savoir si le fait de labourer plus profond, c'est-à-dire d'utiliser les fameux coutres d'Avignon, qui étaient des nouveautés à l'époque, et qui étaient tirés par 6 paires de bœufs, c'était quand même quelque chose, pour soulever des mottes de 40 cm. Et il se pose la question de savoir si, par hasard, il ne serait pas en train de blesser, comme ils le disent eux, hein, la terre, de l'appauvrir en la maltraitant de cette façon-là, et si peut-être cet organisme, la terre, que eux, en tant que propriétaires terriens, reconnaissent comme étant une vraie entité, elle ne serait pas en train de mal réagir à ces mauvais traitements. Et je pense que c'est une autre façon d'aborder le problème, beaucoup moins scientifique, c'est sûr, mais qui peut-être à la portée de plus de gens émotionnellement. Alors, vous me direz, ça fait des siècles, des millénaires que ça dure et qu'il y a des populations, des peuplades, des ethnies qui ont respecté les sols à un point tel qu'ils n'y touchaient pas du tout. Et puis, il y a nous aussi, dans notre Occident, où il a fallu nourrir tout le monde, etc., blablabla. Donc, peut-être qu'une des façons aussi de toucher les gens sur cette conscience-là, c'est de les toucher au cœur et pas forcément qu'au cerveau.
Ouais. Non, mais c'est intéressant de constater à quel point en fait il y a quand même une prise de conscience, même si elle n'est pas forcément scientifique comme vous dites, il y a quand même une certaine forme de prise de conscience qui est là depuis quand même un certain nombre d'années, et finalement il y a encore quand même plein de gens. Ouais, mais à côté de ça, il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce qu'il y a dans un sol et qui ne se rendent pas compte de l'importance du sol. Donc ce paradoxe est assez impressionnant. Enfin, voilà, c'est vrai que se dit à 73 ans, bon, en fait, on savait déjà qu'il y avait des microbes dans le sol, on savait déjà que la vie du sol, elle était super importante. Et en fait, on en est là 73 ans plus tard. Donc bon, ça pose pas mal de questions. Donc justement, on va parler de ces connaissances. Ces connaissances, bah, parfois, les consommateurs n'ont pas forcément le temps de les acquérir, en tout cas, des connaissances poussées sur la biologie, j'entends. Donc, quand ils vont faire leurs courses, ils ne vont pas forcément maîtriser toutes les interactions bactéries, champignons, plantes et autres. Bon, je connais votre avis sur la question maintenant, mais je pose quand même ma question. Label, démarche de qualité, étiquette. Selon vous, Arnaud Daguin, alors comment peut-on guider les consommateurs dans leur choix de consommation? Vous nous en avez déjà un petit peu parlé plus tôt. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus là-dessus?
Je vais vous raconter une anecdote rapide. Quand j'étais au Pays Basque, j'avais la chance d'avoir des chevaux à la maison. J'ai toujours vécu plus près des chevaux. Pas forcément pour monter dessus d'ailleurs, mais leur fréquentation m'a toujours plu. Et j'ai eu la chance d'avoir une naissance d'un petit poulain. Et ce petit poulain, je l'ai vu naître. et je l'ai vu apprendre à manger. Et ça, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, parce que, comme vous le savez, c'est quand même le cœur de ma vie depuis longtemps. Et donc, j'ai vu qu'à côté du fait de téter sa mère, ce petit truc qui venait de naître de quelques jours auparavant commençait à apprendre à manger tout seul, comme un grand. Et tous mes voisins m'avaient dit, tu sais, Arnaud, là, tu as de la digitale pourpre, là, tu as ceci, là, tu as cela, ça risque d'empoisonner tes chevaux, tu sais pas ce que tu risques, franchement, tu es imprudent, tu devrais clôturer plus ou éradiquer ces plantes, etc., etc. Bon, il se trouve que moi, je ne considérais pas les choses comme ça, et je regardais ce petit animal, et j'ai cru comprendre que dans sa façon, dans son apprentissage de son alimentation, hein, à côté donc du lait de sa mère, il goûtait absolument tout, mais alors absolument tout, comme font tous les poulains. Et j'ai eu l'impression que cet animal fonctionnait avec un sens qu'on aura peut-être eu et que peut-être on a perdu, qui est celui d'une sorte de proprioception alimentaire qui fait que, dès qu'il goûtait quelque chose, bien, quelque part en lui, quelque chose savait s'il fallait qu'il y retourne ou pas, si ça lui faisait du bien ou pas, si c'était en train de mal se passer ou de bien se passer. J'ai eu cette certitude en le voyant faire, et ça a changé ma vision de l'éducation alimentaire telle que je l'avais autrefois, quoi. Et je me suis dit qu'il y a peut-être une part un peu plus importante à consacrer à une sorte de spontanéité, alors pas complètement dingue, hein, parce que là, je sais que nous, les humains, nous avons quelque part au-dessus de cette proprioception, nous avons des couches et des couches de culture, d'affect, d'humeur, de tout ce qu'on veut, voilà, et que on peut pas laisser les enfants face à des tas de boostify en leur disant « vas-y, bouffe ce qui te fait envie », parce que, à mon avis, ça se passerait pas très bien au niveau du sucre, par exemple. Mais il n'empêche qu'on pourrait quand même peut-être essayer de trouver ou de retrouver, si c'était possible, une part de cette conscience alimentaire, de cette façon de comprendre ce qu'on est en train de faire quand on mange. Voilà. Vous savez, moi, je suis plus dans la vie active, entre guillemets, et donc j'ai le temps de regarder beaucoup, et c'est très bien, et de réfléchir un peu, ça, c'est souvent moins bien, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, je suis de plus en plus persuadé que ce n'est pas seulement la science et la connaissance en tant que telle qui nous sortira de nos problèmes, parce qu'on voit bien ce que ça donne, là, depuis des siècles, quoi. On voit bien que la raison cartésienne, ben, en fait, au long terme, elle a tort. On voit bien que c'est pas seulement ces amas de connaissances, parce que plus on ouvre des portes en science, et vous le savez, plus on tombe sur d'autres portes et sur l'inconnu. Il y a peut-être une autre façon pour l'humanité d'être vivant et d'avoir des rapports au monde vivant légèrement différents. Le problème de ça, c'est que ça remet en cause nos façons de vivre d'aujourd'hui et que je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête à changer à ce point-là.
Okay, donc, en quelque sorte, se rapprocher de nos sens pour savoir, pour sentir ce qui est bon pour nous, au lieu de faire confiance à des labels ou d'autres...
Peut-être pas au lieu, okay. mais en tout cas, cultiver ça ne ferait pas de mal à quiconque, je pense. Hein, voilà.
Ok, bah, très intéressant. C'est une approche qui fait bien réfléchir. Donc maintenant... on en arrive à la fin de cet épisode, dans lequel, dans la première partie, nous aurons compris que le sol est déterminant pour la survie du vivant et la nôtre. On aura compris dans cette deuxième partie que le sol avait besoin de plus de suivi, de plus d'argent dans la recherche, de politiques publiques plus strictes, et également des citoyens via leur choix de consommation, des citoyens via leurs choix électoraux, via leur sens et leur meilleure compréhension des aliments, du sol, de ce qui les entoure. Donc merci à tous les trois. Avant de nous quitter, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Mathieu, on vous écoute.
Oui, peut-être juste un mot. On a beaucoup parlé de la santé des sols en laissant penser quelque chose qui me semble assez faux d'un point de vue des faits scientifiques, c'est que les sols sont fragiles, enfin, sont un comportement de l'environnement qui est fragile. Or, au contraire, les sols sont plutôt un comportement de l'environnement qui est particulièrement résilient, c'est-à-dire qu'il est relativement résistant aux perturbations. Et c'est justement parce que, malgré cette résilience des sols, on voit qu'il y a des perturbations qui dégradent une part de ses propriétés et des fonctions qu'il assure essentielles au développement des sociétés humaines, qu'il faut qu'on s'en préoccupe encore plus. Et non pas parce qu'il est fragile et donc, comme un être humain fragile, il faut qu'on s'en occupe parce qu'on en a pitié. Non, au contraire, c'est parce que c'est un compartiment essentiel et qui, malgré sa forte résilience, montre des signes de faiblesse. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se préoccupe de son état de santé.
Merci pour cette clarification, Mathieu. J'ai vu que Marc-André, vous aviez aussi quelque chose à ajouter.
Oui, ce que je pense, c'est qu'on a très globalement perdu nos repères avec la nature. Et dans le prolongement de la réponse que faisait Arnaud, c'est difficile de comprendre exactement ce qui s'y passe. Par contre, il est vraiment important d'y être sensibilisé pour écouter la compétence que d'ailleurs on paye dans nos impôts. Et c'est vraiment, là, je pense, une chose importante que d'essayer d'utiliser au maximum ce que les générations précédentes nous ont légué, notamment ce qu'elles nous ont légué de connaissances scientifiques par leurs impôts. Parce qu'on est dans un monde où on peut culpabiliser une génération d'avoir très mal fait les choses, mais elle a quand même investi dans un corpus scientifique qui vont au rendez-vous d'un certain nombre de pratiques empiriques, d'ailleurs, dans plein de domaines. Finalement, ces générations, c'est la mienne, qui ont mal fait les choses, elles ont au moins fait une boîte à outils pour l'avenir. Mais pas que cette boîte à outils reste à prendre la poussière dans un coin, il faut vraiment arriver à la sortir. Il y a une responsabilité de ma génération sur ce qui se passe en ce moment et sur les perspectives d'avenir qui sont assez négatives, mais il y a aussi des éléments de solution qui ont été assemblés par cette génération.
Dans tout ce que la génération précédente, enfin les générations précédentes ont mis en avant, toutes les connaissances qu'on a, vous avez déjà un petit peu parlé de tout ce qui est agroécologie, etc., autres modèles agricoles, entre autres, donc, de se tourner là-dessus comme exemple pour essayer de tendre vers un monde plus sain pour l'environnement, pour les sols, le vivant et évidemment l'être humain qui fait partie du vivant. Donc maintenant, l'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film ou un livre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs et auditrices ?
Ce n'est pas pour lui servir la soupe et ce n'est pas parce qu'il est là. Mais quand même, il y a un bouquin fondateur pour moi, dans mon regard sur le monde vivant, qui a été un livre de Marc-André, donc qui s'appelle « Jamais seul », qui est paru aux éditions Actes Sud, et qui, pour moi, dans mon regard sur le vivant, a été absolument essentiel. Et il y en a peut-être un autre que je peux conseiller, qui est un livre de Ernst Zürcher, qui est un scientifique suisse, et qui parle des arbres, et qui s'appelle « Les arbres entre le visible et l'invisible », je crois que c'est toujours chaque dessus, voilà. Donc là, c'est deux bouquins essentiels pour moi. Il y en a évidemment d'autres, tous les bouquins de Marc-André sont passionnants et érudits et avec plein d'humour, mais le premier que j'ai lu, donc « Jamais seul », c'est vraiment, pour moi, une bonne façon de changer de regard, d'améliorer son regard sur le vivant.
Je suis touché d'entendre ça. Je ne sais pas si l'amitié n'a pas inspiré plus de patience à Arnaud. On en aurait eu pour un autre, mais en tout cas...
Non, je ne te connaissais pas à l'époque, donc...
Mais plus sérieusement, il y a un livre que j'ai lu récemment, c'est « La Terre de Zola ». Et alors, j'ai été assez étonné que la question de la fertilisation de la Terre se pose beaucoup, et je renvoie les futurs lecteurs, donc au personnage de la mère Caca, qui a les plus beaux choux du marché, et on sait comment. Mmh. Et aussi, je découvre, entre les lignes, ou à certaines pages de façon carrément explicite, que la paysannerie, que le monde agricole souffrait déjà des mêmes maux, depuis la concurrence des produits étrangers qui étaient moins chers, jusqu'aux problèmes d'acquisition des intrants et à l'indifférence du reste de la société. Ça fait froid dans le dos, parce qu'on voit que les problèmes de l'agriculture ne sont pas d'hier. Mais ils sont d'avant-hier au moins.
Merci Marc-André, Mathieu.
Oui, deux suggestions. Alors, la première, pour un peu penser aux enfants, on parlait beaucoup de l'importance de transmettre, et notamment que les jeunes générations qui sont en train de se former soient mieux formées que nous sur la connaissance des sols. Donc le premier, c'est un livre qui a été édité il y a un an environ aux éditions Maya, qui s'appelle « La clé des sols », qui a été écrit et illustré par des préadolescents, des élèves d'école élémentaire et de collège, pour justement expliquer aux préadolescents ce qu'est un sol, comment ça s'étudie, à quoi ça sert dans notre vie quotidienne. et dont en fait le propos a été coordonné scientifiquement par une directrice de recherche de l'INRA à Aix-en-Provence, Sophie Cornu, qui est une spécialiste internationale des sols. Et voilà, moi-même je l'ai utilisé, j'ai acquis ce livre-là, je l'ai utilisé pour expliquer un peu à mes enfants ce que je faisais en trouvant des mots meilleurs que ce que j'aurais été capable de lire moi-même. Voilà, et la deuxième suggestion, qui elle est plutôt une sorte d'avant-première, un collègue à nouveau de l'INRAE, Philippe Inzinger, là, a publié un livre aux éditions Quae en juin, qui s'appelle « La vie cachée des sols ». Donc ça fait également écho à ce qui a été dit sur le fait que les sols est quelque chose de peu perceptible. Et c'est un livre qui évidemment a pour but de sensibiliser plutôt un grand public un peu averti, ou en tout cas intéressé par le domaine de l'environnement et de la science, enfin la vulgarisation scientifique. Je n'ai évidemment pas lu le livre puisqu'il n'est pas sorti, mais j'ai eu la chance de pouvoir voir le sommaire, et un bon mélange de rigueur scientifique et de vision humoristique sur le sol, donc j'en recommande la lecture.
Moi, je vais faire comme Arnaud, j'ai lu la BD Sous Terre à laquelle vous avez contribué, Marc-André, et c'est vraiment une super BD où on comprend beaucoup de choses sur le sol.
On va croire que vous êtes tous payés pour faire de la pub, là.
C'est ça. Donc, merci à Marc-André Sellos, Mathieu Bravin et Arnaud Daguin de nous avoir éclairés sur la santé du sol et des êtres vivants. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Audrey Chonnet s'est occupée de l'animation sonore et Léa Charon de l'infographie. À très vite, bonne écoute.